en action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
Bienvenue de nouveau sur le plateau d'Action Logement Groupe. Vous le savez, chaque année, Action Logement est présent sur le Salon des maires et des collectivités locales au plus près des élus pour accompagner transition et mutation des territoires. Alors sur ce plateau, on accueille évidemment des élus, des partenaires, des filiales du groupe pour échanger sur les grands enjeux qui font votre quotidien. L'occasion aussi pour nous de vous faire mieux connaître notre mission d'utilité sociale en lien avec nos engagements RSE et nos ambitions 2030. Et pour cette séquence, je vous propose qu'on reste en Île-de-France et qu'on aille plus précisément à Montfermeil. Avec vous, monsieur le maire Xavier Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur ce plateau. Montfermeil, Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi d'ailleurs président de la communauté d'agglos du Grand Paris. Grand Est, c'est ça ?
Grand Paris, Grand Est.
Voilà, on se mélange un peu dans toutes ces nouvelles structures.
Territoire.
Ouais. Dans un grand territoire plus large. Et je le dis parce que c'est important, parce que les questions qu'on va évoquer, elles sont aussi à des échelles qui sont différentes de celles de la ville. Et pour parler justement de vos projets, notamment de ces requalifications de votre tissu pavillonnaire, on va être avec Léa Marakem. Vous êtes Bacarem. Voilà. Directrice générale de CIFAE, je l'ai bien fait tout à l'heure et là je le rate, c'est la vie. Xavier Lemoine, vous êtes là. Et Bruno Rousseau, le directeur général adjoint de l'immobilière 3F. Tout le monde est là. Comme c'est la coutume sur ce format, je vais commencer avec vous, monsieur le maire, pour peut-être d'abord simplement découvrir votre commune. En quelques mots, à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas, comment vous présentez Montfermeil ?
Ville de 30 000 habitants, à équidistance de Paris, Roissy et Marne-la-Vallée, située sur un plateau point culminant de la Seine-Saint-Denis, avec au nord la forêt de Bondy, au sud le croissant vert de la région Île-de-France, ayant souffert énormément de son enclavement, qui a été la cause de la chute des grandes copropriétés des années 60, qui ont fait l'objet d'un traitement avec l'Agence nationale du renouvellement urbain très, très, très vigoureux, 350 millions d'euros rien que pour la ville de Montfermeil, 1000 démolitions, 1000 reconstructions, 500 réhabilitations, plus tous les équipements publics qui doivent accompagner de tels projets. Et puis, au fur et à mesure que la puissance publique a repris pied, eh bien, c'est dans le centre-ville ancien des années 1850, 1870, eh bien, que l'on a vu les marchands de sommeil. Il a fallu également, avec l'aide de l'ANA, l'aide de l'ANRU, les outils d'aménagement traditionnels et un vigoureux droit de préemption, on y est arrivé, ou en cours tout au moins, et on s'est aperçu que ce que l'on croyait être, le fleuron de notre ville, c'est-à-dire ces grandes zones pavillonnaires, étaient finalement des zones extrêmement fragilisées, en voie de paupérisation, et avec les phénomènes de dédoublement, division de pavillons, marchands de sommeil, ou des gens qui se resolvabilisaient par la location dans des conditions indignes, des garages, des sous-sols et des combles.
Donc effectivement, c'est quand même... Et c'est ça qui est intéressant aussi, puisque vous êtes maire depuis un certain nombre d'années, 22 ans, hein, je crois. Donc vous avez à la fois connu toute l'histoire, toute l'évolution de cette ville. Et c'est vrai aussi, et sans faire injure au maire que vous êtes, que c'est vrai que Montfermeil, quand on parle Montfermeil politique de la ville, ça parle, ça résonne, il y a une histoire, il y a quelque chose qui a été lourd et pas simple à gérer dans un département qui est lui-même pas facile. Est-ce que ça a été parfois un atout ou parfois un handicap ? Ça vous a aidé à avoir peut-être davantage de moyens et à penser ça de manière plus large ?
Alors, il est incontestable que d'avoir été bénéficiaire de ces puissantes politiques sur l'investissement avec l'ANRU et sur la politique de la ville a été une nécessité pour sortir de la ville de sa difficulté. Que l'image qui a été associée à Montfermeil ait été négative pendant de très nombreuses années, oui, mais en même temps, je crois que les pouvoirs publics peuvent se féliciter du bon emploi, du bon usage et des bons résultats que nous avons pu collectivement obtenir. Et aujourd'hui, je dirais, on n'oublie pas l'histoire de Montfermeil, mais on sait ce qu'elle est devenue ou en train de devenir, et c'est suffisamment crédible pour que maintenant ce soit ça qui soit porté à l'extérieur, ce qui, je crois, est une belle victoire.
Et c'est d'autant plus une belle victoire que ça a été effectivement complexe, mais c'est aussi ça qui est intéressant, puisque la plupart des collègues élus et des maires que je recevais étaient là aussi dans toujours... Il faut savoir réinventer sa ville ou passer à des étapes d'après, et c'est pas toujours facile non plus pour les habitants. C'est-à-dire, quelque part, il y a des habitudes, il y a des usages, et à un moment, reconstruire, déconstruire, tout ça, c'est aussi un travail de terrain, une communication avec ses habitants pour leur expliquer pourquoi on doit changer.
Je suis d'accord, tout à l'heure vous soulignez que ça faisait 22 ans que j'étais élu, mais je sais que je perds la compréhension de mes habitants au début de chaque mandat, puisqu'effectivement, on essaie de se renouveler et sur les nouveaux enjeux que l'on voit émerger et sur lesquels on commence à se positionner. Que vient faire le maire sur ce sujet-là? Et puis, en fin de mandat, généralement, ils disent « Ah oui, ok, vu, on comprend ». Et à ce moment-là, bon, heureusement que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'il y a des élections entre deux. Mais alors, c'est vrai.
Justement, sur ces zones pavillonnaires, avant qu'on rentre en détail sur les interventions des uns et des autres, quelle était la priorité? Comment vous avez commencé ce processus et où est-ce qu'il en est aujourd'hui concrètement?
Au début, il n'y avait pas d'outils. L'EPFIF, l'établissement public foncier de la région Île-de-France, était balbutiant. Donc on avait juste l'arme de la préemption. Puis une fois qu'on avait préempté, qu'est-ce qu'on en faisait? Bon, difficile. Ensuite, on a fait du portage grâce à l'EPFIF, qui venait soulager, je dirais, les finances de la commune. Et puis ensuite, la CIFAE est arrivée, puisqu'en fait, là pour le coup, c'est vous préemptez, on achète à l'amiable, on préempte, mais c'est pour un projet derrière, dont on vérifie la solvabilité en général, en tout cas on essaye d'y parvenir. Et ça permet, à travers tout le système de veille que l'on a sur la ville, à travers le CCAS, service d'hygiène et de salubrité, le fait que je reçoive et que je regarde chacune des transactions immobilières de la ville, et qu'on a une bonne connaissance de la ville, eh bien on repère, je dirais, le profil type des pavillons qui pourraient poser soucis ou qui commence déjà à poser soucis. Et donc ça nous permet d'intervenir d'une manière extrêmement complète avec une sortie pérenne et intelligente, puisque là, on rend service, je dirais, aux pavillonnaires par la réhabilitation du patrimoine, voire son extension quand c'est possible, et puis par le fait qu'on offre des logements tout à fait agréables et intéressants en milieu pavillonnaire.
Alors pour réussir de tels projets, il faut évidemment des partenaires au-delà de la vision et du projet. C'est là que je me tourne vers les partenaires autour de cette table, et notamment vous, Léa Macarem. Je rappelais que vous êtes la directrice générale de CIFAE. Peut-être en quelques mots rappeler ce que c'est que la CIFAE, et puis nous expliquer comment vous êtes intervenue et sur ce sujet délicat et long de la réhabilitation pavillonnaire d'habitat dégradé et de cette lutte aussi contre l'habitat indigne quelque part.
La CIFAE est une filiale Action Logement Immobilier et EPF d'Île-de-France qui accompagne des collectivités franciliennes dans une démarche de lutte contre la dégradation des tissus pavillonnaires. Alors, on travaille maintenant depuis 3 ans avec Grand Paris Grand Est, qui est un territoire un peu particulier pour nous, d'abord parce que c'est le premier EPT avec lequel on a signé une convention de partenariat. Et puis, c'est un territoire assez précurseur, finalement, qui mène une politique de requalification de l'habitat assez importante, y compris en secteur pavillonnaire, et mène finalement une réflexion assez poussée, je pense, sur la mutation de ces tissus pavillonnaires qui représentent une part importante de ce territoire. Et ensuite, Montfermeil et Clichy, comme on le disait, ce sont deux communes du territoire qui ont largement contribué à la création de l'outil et à sa genèse, en étant au départ dans une convention expérimentale avec l'EPF qui a donné naissance finalement à cet outil CIFAE, et qui sont très investis sur le sujet. Alors concrètement, la CIFAE, le premier travail, ça va être d'identifier justement en tissu pavillonnaire des biens qui nécessitent une intervention, à savoir des pavillons qui sont divisés et dégradés, des pavillons sur lesquels sont déjà menées des procédures de lutte contre l'habitat indigne, et des pavillons sur lesquels on a décelé un risque de dérive vers le mal logement. Notre rôle à nous va être, quand les conditions le permettent, d'acquérir ces pavillons au fil de l'eau, soit lorsque une commune a préempté, on peut racheter à la commune, mais sinon on va acheter directement à ses propriétaires qui sont des SCI ou des particuliers. Et lorsqu'on en aura acquis suffisamment pour créer une opération multisite de requalification pavillonnaire, donc on parle de 5 à 10 pavillons qui permettent déjà de faire une petite opération, c'est toujours en diffus, c'est des projets à la parcelle, on va pouvoir les céder à un bailleur social qui lui va conduire les travaux dans le cadre des programmes qui auront été validés avec la collectivité sur chacun des pavillons, qui peuvent être de la démolition reconstruction ou de la réhabilitation avec extension, pour au final produire une nouvelle offre de logement sur ces quartiers qui en ont besoin.
Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long de ces journées, on a parlé avec beaucoup d'élus de la problématique évidemment du logement, de la production de logement, de l'adapter aux usages, aux besoins de différents types de populations. Mais c'est un peu la première fois qu'on évoque ces questions du mal logement et de l'habitat indigne, qui ont l'air moins prioritaires, mais qui sont pourtant tout autant en vrai. Oui, c'est pas par là qu'on l'aborde généralement. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de le regarder précisément, parce que c'est peut-être là aussi que ça commence, non, quelque part.
C'est comme ça qu'on s'est fait connaître, hein, hélas.
Ouais, donc l'habitat indigne, c'est aussi un vrai sujet, c'est important. C'est là, dans cette phase-là, je suppose que intervient évidemment l'immobilière 3F avec vous, Bruno Rousseau, vous êtes directeur général adjoint. Peut-être du coup nous expliquer comment après ça se passe, comment ça s'opère, comment ça se finance aussi, toutes ces opérations concrètement dans la ville de Montfermeil notamment.
Oui, alors... peut-être rappeler que le partenariat de l'immobilier 3F sur la ville de Montfermeil est ancien, il a maintenant 22 ans, et qu'on est intervenu sur ces communes au départ justement pour voir comment on accompagnait la ville sur la lutte de l'habitat indigne, mais là dans les grandes copropriétés. De fil en aiguille, on en est venu évidemment forcément à s'intéresser à ce qui se passait dans le centre-ville et également à ce qui se passe dans le pavillonnaire diffus. On est sur des opérations en fait de dentelle. On intervient aujourd'hui sur 5 communes de la Seine-Saint-Denis. Ça représente en gros un potentiel de 63 logements à date en projet pour 25 unités pavillonnaires. Donc c'est des opérations, quand je parle de la dentelle, c'est des opérations...
Parce que chirurgicales.
Chirurgicales, exactement. Donc on est à 2, 3, 4, 5 logements. Quand c'est 5 logements, c'est vraiment une grosse opération. Donc on part du bâti existant pour l'analyser, pour voir comment il peut être transformé et transformé en logement particulier qui ne soit pas du marchand de sommeil, c'est-à-dire donc des logements qui soient aux normes, qui soient remis aux normes et qui soient, je dirais, attractifs sur le marché locatif. Sur la partie financement de l'opération, on s'adresse en fait, on recherche des financements de type intermédiaire principalement. Pourquoi ? Parce que si on était en financement social, en réalité, on ne trouverait pas d'équilibre économique. Et deuxièmement, alors il y a un peu de logement social, hein. Il y a quelques logements sociaux sur les 63 logements dont je vous parle, mais c'est vraiment anecdotique. L'essentiel en fait est intermédiaire pour s'adresser à une population en fait de personnes qui cherchent à se loger sur ces territoires, qui ne trouvent pas en accession, qui ne trouvent pas à avoir un logement par le canal du logement social et donc qui du coup là trouvent un logement moins cher que dans le marché privé. C'est ça notre positionnement d'un point de vue de produit et donc de clientèle à l'arrivée. Alors au stade où on en est, on n'est pas encore au stade de livrer les logements puisqu'on vient de désigner là sur l'ensemble de panier d'affaires dont je viens de vous parler, une équipe d'architectes, une et une seule, pour analyser tous les projets finement et les transformer, donc soit en réhabilitation simple, comme l'a dit Léa, soit en réhabilitation lourde, soit en réhabilitation extension ou démolition construction.
Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir le côté très spécifique de ces actions, avec quand même, peut-être pour vous, monsieur le maire, mais j'imagine parfois vos impatiences, la difficulté qu'on s'inscrit quand même dans le temps long. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut multiplier du coup les opérations pour qu'il y ait certaines qui sortent à certains moments ? Comment est-ce qu'on se projette ? Alors, vous avez le recul de ce mandat, mais comment vous envisagez du coup les prochaines années et quels sont les espoirs que vous portez sur ces différentes interventions et sur ce sujet précis ?
Non, c'est une mécanique de dentelle, mais lourde néanmoins sur le plan administratif et financier et technique. Elle a été initiée, vous l'avez rappelé très gentiment, sur nos deux villes de Clichy et de Montfermeil, et on la voit monter en puissance. Donc, je vous rassure, j'ai d'autres sujets d'impatience ailleurs, mais je suis plutôt confiant et en confiance avec la CFAE et I3F, puisque effectivement, ce sont pour 3F de vieux partenaires qui ont été extrêmement précieux pour la ville de Montfermeil.
Quand je parlais d'impatience, je ne parlais pas d'impatience dans le mauvais sens du terme, mais d'un élu qui veut toujours se dire, on s'attaque à un problème et il faut que ça commence à se voir et à sortir, etc. Sur d'autres projets dans votre commune, peut-être pour terminer ensemble ce temps d'échange, est-ce que vous avez des perspectives qui vont dans le même ordre de résolution, de projets qui vont changer un peu et continuer à changer l'image de votre commune ?
La grande révolution pour la ville de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois d'ailleurs, c'est l'arrivée de la ligne 16 du métro qui va multiplier par 10 le nombre d'emplois accessibles en 45 minutes de temps. Donc de 350 000, on va passer à 3,5 millions d'emplois accessibles en 45 minutes de temps. Bien. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 15 ans, nous faisons des réserves foncières autour de la gare pour pouvoir jouer toutes les opportunités sur le plan notamment économique, développement économique, que ce métro pourra nous apporter, plus sans doute d'autres opportunités que je n'arrive pas encore à identifier très précisément, mais qui seront très certainement existantes, pour pouvoir les accueillir et les enraciner sur le territoire. Et donc, on est dans un temps d'attente, pas d'impatience, mais d'attente de quelque chose qui va quand même révolutionner et nous raccrocher à la dynamique générale de la région Île-de-France, dont on a été tenu à l'écart par notre enclavement pendant de nombreuses décennies.
Comme un aboutissement de tout le travail fait et un nouveau départ.
Tout à fait.
Départ, comme on l'évoque.
Absolument.
Et bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu évoquer avec nous ces sujets et l'action que vous menez pour la ville de Montfermeil. Merci à tous les deux pour vos précisions et pour ce débat et ce temps d'échange. Je vous rappelle que le podcast est à retrouver sur Radio Territoria et Radio Immo, ainsi que sur le LinkedIn d'Action Logement. Merci à tous les trois. À bientôt. Au revoir.
En action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.